proposons aujourd'hui en vue de votre future candidature sur un poste dans le réseau des lycées français à l'étranger. Donc, avant de démarrer la présentation et de nous présenter définitivement, je vais donner tout de suite la parole à Fabienne Chartet pour vous expliquer un petit peu comment nous allons fonctionner sur ce webinaire.
Voilà, donc bonjour à toutes et tous. Donc c'est pour nous le premier webinaire sur ces postes de personnel de direction à l'étranger. Donc par défaut, vous avez pu constater que nous avions coupé les micros. Pendant toute la durée du webinaire, vous allez pouvoir intervenir par le biais du chat. Mais dans un premier temps, ce chat va être réservé plutôt à des interventions s'il y avait des soucis techniques, soit de son, de caméra. Et plutôt vers la fin de l'intervention, en fait, vous pourrez poser des questions plus précises, sachant que ces questions ne pourront concerner que des questions quand même d'ordre général. Tout ce qui est vraiment question d'ordre personnel, nous ne serons pas en mesure de répondre pendant ce webinaire. Vous aurez à la fin, en fait, du PowerPoint présenté les coordonnées de Mathieu Le Serre, le collègue qui pourra répondre à des questions plus précises. Voilà, donc pour ma part, je suis Fabienne Chartier, la chef du bureau du recrutement à la DRH de l'AEFE.
Donc Mathieu Auxerre, gestionnaire au bureau du recrutement en charge du recrutement des personnels de direction.
Et Bernard Pujol, votre serviteur, qui est directeur des ressources humaines ici à l'AEFE. Bien, alors, pour commencer ce webinaire, il nous a paru intéressant de vous faire une présentation un petit peu de l'AEFE. On va essayer d'être succinct dans la présentation, mais de vous donner quelques éléments. Ensuite, je parlerai d'un contexte général et puis on viendra petit à petit sur les procédures de candidature, la procédure de recrutement et on terminera sur des problèmes particuliers ou de connaissances générales. Il me paraît important de vous donner aujourd'hui quelques informations sur cette maison que vous voulez rejoindre, qui s'appelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, créée en 1990 et qui a vécu, si vous voulez, pendant 30 ans, jusqu'à la pandémie, dans une phase de croissance importante, un petit peu relayée, difficile pendant 2 ans. Et nous repartons sur une phase de croissance un peu importante. Et donc, quand je parle de croissance, je peux vous donner un chiffre peut-être à la rentrée. Nous avons 566 établissements dans le monde entier. Et sur ces 566 établissements, nous scolarisons à peu près 380 000 à 390 000 élèves. Nous sommes en train de faire recenser les élèves à la rentrée. Et voilà, nous sommes dans une progression de quelques pourcents cette année. Nous n'avons pas, si vous voulez, de problématiques. Nous sommes en difficulté pour avoir, pardon, les effectifs réels en ce moment, mais mes collègues du réseau y travaillent. Et donc, voilà, on n'a pas de. On va vous donner ça bientôt. Je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas le son. Nous, normalement, tout fonctionne. Vous devez, si, n'hésitez pas à le redire ou à vous reconnecter si c'était nécessaire pour que vous puissiez assister à ce webinaire. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que nous allons enregistrer ce webinaire et donc il sera disponible à l'issue de ce webinaire. Vous pourrez le réécouter si nécessaire un peu plus tard avant de faire votre dossier. Donc cette agence créée en 1990, qui scolarise donc ses 380 000, plus de 380 000 élèves. Et donc, ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est que vous compreniez que nous sommes régis par la tutelle. Nous avons une tutelle qui est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et nous sommes en relation, non pas en tutelle, mais en relation avec le ministère de l'Éducation nationale, par un biais très simple sur lequel vous êtes concerné en tant que chef d'établissement d'un lycée français à l'étranger, qui est le respect de l'homologation. C'est-à-dire que tous les établissements que vous allez être amenés à diriger, à piloter si nous vous recrutons, sont des établissements homologués par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, c'est cette homologation qui crée le lien avec l'Éducation nationale et qui fait que l'AEFE est un opérateur qui a une mission de service public. Et cette mission de service public, c'est de l'enseignement. Nous sommes là pour assurer l'enseignement des enfants qui nous sont confiés. Et cette agence, elle se caractérise aussi par si vous voulez, un sentiment d'excellence. Alors, je dis un sentiment parce que je ne veux pas qu'on confonde excellence et élitisme. Ce n'est pas l'agence, l'élitisme. C'est une excellence pour tous. Et c'est votre devoir en tant que chef d'établissement d'accompagner tous les élèves. On nous a souvent reproché, parce qu'on a d'excellents résultats aux examens, de peut-être ne pas présenter tout le monde. C'est faux. C'est un vieux discours. C'est faux. Aujourd'hui, pour la dernière session du baccalauréat, nous avons 98% de réussite au baccalauréat, avec 83% d'élèves qui ont une mention. Donc, ça prouve bien l'excellent travail qui est fait dans nos établissements, avec, que vous pilotez, avec des enseignants engagés et des élèves qui travaillent beaucoup parce qu'ils sont dans un contexte à la fois d'établissement et familial et un épanouissement personnel qui leur permet de s'investir totalement dans leurs études. Ce qui est important aussi, justement, sur cette attractivité, c'est que beaucoup de nos élèves, enfin, la majorité des élèves, ont un véritable parcours à l'issue de notre scolarité ambitieux, c'est-à-dire que nos élèves ont envie d'aller dans les grandes universités françaises, étrangères, et de poursuivre leurs études. C'est ça aussi le réseau dans lequel vous souhaitez candidater. Une fois qu'on a présenté l'agence, si vous voulez, sur ce modèle-là, peut-être un mot sur les personnels pour que vous ayez une idée, avant de revenir sur le contexte général. Aujourd'hui, à l'agence, nous, à la DRH, qui gérons les personnels détachés, nous gérons à peu près 5 900 personnels. 5 900 personnels qui se répartissent sur différentes missions, sur différentes fonctions. Les personnels d'encadrement que vous souhaitez être à la EFE, des personnels formateurs qui sont des personnels qui peuvent être des personnels du second degré, qui peuvent être des personnels du premier degré, et à l'issue et aussi après des personnels enseignants qui sont des personnels enseignants, des personnels aussi éducatifs d'éducation et des personnels administratifs. Trois catégories de personnels sur lesquels que nous pilotons ici et que nous gérons à partir du recrutement jusqu'après le suivi de la gestion administrative et financière. 5 800, dans trois types d'établissements, ça aussi c'est important pour ceux qui ne nous connaissent pas, que vous l'ayez en tête, trois types d'établissements, des établissements à gestion directe, des démembrements un petit peu de l'AEFE, c'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, le chef d'établissement est ordonnateur secondaire des dépenses, l'ordonnateur principal étant le directeur de l'AEFE, et on est sur de la comptabilité publique qui est celle qui sera agrégée après à celle de l'AEFE. Donc on est, alors je ne vais pas dire proche de l'EPLE, mais on n'en est pas loin. Voilà, on n'en est pas proche, mais on n'en est pas loin, avec des caractéristiques un peu spécifiques, mais qui quand même se rapprochent. Un deuxième type d'établissement, ce sont des établissements conventionnés, toujours, ce sont des établissements qui ne sont plus gérés directement par l'AEFE et par le directeur de l'agence, mais qui sont gérés par des comités de gestion, des comités de parents d'élèves. On peut avoir des boards, ça se trouve beaucoup dans les pays anglo-saxons, on peut avoir des juntas, ça se trouve beaucoup plus dans les pays d'Amérique du Sud. Et ce sont ces parents d'élèves, ces comités de gestion qui gèrent l'établissement dans son côté financier. L'agence, par le biais de la convention, met à disposition de ces établissements des personnels d'encadrement, des personnels formateurs, voire des personnels enseignants. Il y a une relation qui se crée entre l'établissement et l'AEFE. Et un troisième type d'établissement, ce sont des établissements partenaires. Ce sont des établissements qui sont gérés directement par des organismes privés. L'agence a une relation avec eux par le biais, si vous voulez, d'un accord de partenariat, mais la responsabilité du recrutement et de la gestion des établissements revient directement à l'organisme qui gère cet établissement dans le pays. En revanche, ce qui est très important, c'est que tous ces établissements font partie du réseau de l'enseignement français à l'étranger. Et pour en faire partie, ça veut dire qu'ils sont tous homologués. Je reviens au début de mon propos, c'est-à-dire qu'ils ont tous l'homologation du ministère de l'Éducation nationale. Donc, et sur ces 566 établissements dans le réseau, pour vous donner une idée aussi des nombres de personnels, toutes catégories confondues, personnel de droit local, personnel détaché, nous avons à peu près 40 000 personnels qui travaillent pour tous ces établissements du réseau. Alors, une fois qu'on vous a présenté un petit peu la structure des établissements, qu'on vous a présenté un petit peu ce qu'était l'AEFE, un petit mot sur le contexte général aujourd'hui de l'agence. L'AEFE aujourd'hui, comme je l'ai dit, vient de passer deux années difficiles et nous espérons être sortis de cette pandémie qui a quand même fortement pénalisé notre réseau, mais vous avez été soumis à cette même problématique dans vos établissements en France ou en métropole par la pandémie. Aujourd'hui, on sort de crise et c'est pour ça qu'on a de nouveau une croissance qui réapparaît au niveau des inscriptions dans les établissements scolaires. Nous avons, si vous voulez, une directive importante de l'agence qui a été fixée par le président de la République il y a maintenant quelques années, c'était en 2018. Il l'a réaffirmée il y a quelques semaines dans le séminaire des ambassadeurs qui était réuni au Quai d'Orsay à Paris, dans l'idée de développer ce réseau de l'enseignement français à l'étranger, l'objectif étant pour lui, dans un premier temps, en 2030, de doubler les effectifs. On regarde la pandémie, c'est vrai qu'on voyait bien, on est à 390 000 élèves, on devait arriver à 700 000 en 2030, on aura certainement quelques difficultés. Ce qui est très important par rapport à cela, c'est que ça génère à l'AEFE un travail, si vous voulez, de développement. Et ce développement de l'agence, il se fait surtout par des établissements partenaires qui viennent, si vous voulez, répondre à des demandes de familles, de parents dans les différents pays et qui génèrent des créations d'établissements obligatoirement, comme je le répète, il faut qu'ils soient homologués et ce n'est qu'à partir de l'homologation que ces établissements ont vocation à devenir des partenaires et avec cet accord de partenariat, ils participent bien sûr à certaines actions dans le cadre notamment de la formation continue qui fait partie, qui associe à la fois les personnels des établissements EGD conventionnés, mais aussi des établissements partenaires. Donc ce développement, il est là, c'est un objectif vraiment important. Néanmoins, le cœur de notre métier, de votre futur métier, si vous êtes bien des chefs d'établissement, d'un établissement français à l'étranger, avec une mission de service public et avec la nécessité d'aborder les programmes de la même façon qu'en France. Le baccalauréat que l'on passe à l'étranger est la même composante que le baccalauréat qu'on passe en France. Et donc, il est important que les enseignements dispensés soient identiques. Il est important, par exemple, que la réforme du baccalauréat qui vient de se faire se soit faite normalement dans tous nos lycées français à l'étranger. Et si réforme dans le futur il y a, nous ferons bien sûr avec vous les mises en œuvre de ces réformes pour que les élèves de ce réseau, parce qu'on a des élèves qui bougent et des parents qui bougent, puissent avoir une continuité scolaire, c'est l'objectif initial de ce réseau, en partant d'un pays à un autre et avoir une continuité jusqu'à la fin de leur scolarité en lycée, c'est-à-dire après le baccalauréat. Ça reste notre mission principale. Mais bien sûr, vous verrez que pour ceux qui seront recrutés, qui pourront avoir la chance d'intégrer ce réseau, il y aura bien sûr la notion du développement, la participation à d'autres actions qui sont au cœur aussi du pilotage d'un établissement du réseau. Donc, la structure initiale de mon propos, je vais m'arrêter là, je reviendrai plus dans les détails au cours du webinaire, mais voilà un petit peu, si vous voulez, la structure dans laquelle vous vous engagez, le contexte dans lequel vous vous engagez. Et maintenant, on va vraiment venir sur peut-être la problématique davantage du recrutement, hein, de la candidature et du recrutement, avant que nous revenions après sur d'autres éléments.
Tout à fait. Donc, je vais maintenant vous faire un focus sur la procédure de candidature dans un premier temps, et puis sur le processus de recrutement. Donc, la procédure de candidature commence, comme vous l'avez sans doute vu, par la publication des postes sur le site de l'AEFE. Donc, pour rappel, cette année, 42 postes de personnel de direction ont été publiés, 24 postes de chef d'établissement et 18 postes d'adjoint. Donc, concernant le serveur, il est ouvert jusqu'au 29 septembre à minuit. Alors, il y a une modalité de transmission des dossiers qui est nouvelle cette année. Jusqu'à l'année dernière, les candidats nous transmettaient les dossiers en version ce qu'on appelle papier, tandis que cette année, les dossiers devront être envoyés par l'application France Transfert, dans un premier temps, sans les avis. Pour transmettre les avis, vous devrez envoyer le dossier papier original à vos supérieurs hiérarchiques. Donc, il y a l'ADAZEN et le recteur ou la rectrice si vous êtes en France, et le COCA qui est l'ambassadeur et ou l'ambassadeur si vous êtes en poste à l'étranger. Et donc, les supérieurs hiérarchiques enverront au bureau du recrutement uniquement par mail la dernière page des avis hiérarchiques, et ce, pour le 4 octobre 2022. Donc, maintenant, je vais vous développer la procédure de recrutement, qui est assez longue, parce qu'elle commence de septembre et finit jusqu'à fin février, début mars, jusqu'à la proposition des postes. Et ça peut aller au-delà. Donc, pour effectuer cette sélection, le bureau du recrutement applique quelques critères de sélection principaux et fondamentaux. Alors, la première des conditions, c'est d'être titulaire du corps des personnels de direction de l'éducation nationale. Deuxième condition fondamentale, justifiée d'un minimum de 3 ans de service effectif dans le dernier poste occupé. Et ce qui est vraiment là important, on rentre vraiment dans l'étude très fine et très précise des dossiers. Quand on va étudier votre dossier, on va se pencher, si je puis dire, sur la cohérence avec votre parcours professionnel et les vœux que vous avez formulés. Alors, sur les vœux, on y reviendra tout à l'heure. Juste quelques petits mots. D'une part, il ne faut pas vous restreindre dans le choix des vœux. J'ai envie de dire que plus vous allez formuler de vœux, potentiellement, plus vous avez de chances de venir à l'entretien. Par contre, vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux, mais tous les 10 vœux sont importants, du premier jusqu'au 10e. C'est-à-dire qu'on peut très bien vous faire une proposition de poste sur le 10e vœu formulé. Il est aussi important que le premier vœu. Même s'il y a une hiérarchie en termes de préférence, vous pouvez préférer le premier vœu par rapport au 10e. Mais il faut vous attendre, voilà, à ce qu'on vous fasse potentiellement une proposition de poste sur le 10e vœu formulé. Et surtout, ne pas faire de vœux par défaut. Il ne faut surtout pas mettre 10 vœux histoire d'en mettre 10. Et des fois, il vaut mieux mettre 5 vœux bien réfléchis, avec un projet bien construit et mûrement réfléchi derrière ces vœux. On va rechercher également, si vous avez vu les profils de poste sur le site de l'agence, et si vous les avez vus attentivement, on va rechercher sur certains postes, sur certains profils, des compétences linguistiques qui, selon la zone géographique, vont être absolument déterminantes. Notamment, je peux parler de l'Allemagne, on va voilà, rechercher un niveau d'allemand un niveau bilingue, j'ai envie de dire. L'allemand scolaire ne suffira pas, un allemand intermédiaire peut-être pas non plus. Donc, on recherche pour ces établissements en Allemagne un niveau quasiment bilingue. Et ça vaut pour d'autres pays du monde, les zones Amérique du Sud, etc., par exemple. Et on va rechercher de préférence également, même si voilà, ce n'est pas toujours facile à obtenir selon le parcours de la personne, une expérience à la fois en collège et en lycée. Donc, voilà... C'est grands principes fondamentaux de sélection des dossiers. Donc, cette sélection est à la fois un marathon et un sprint parce qu'elle dure assez longtemps dans le temps et on est contraint par voilà, des différentes étapes durant toute cette phase de sélection avec des étapes intermédiaires, des sélections internes à l'agence, des sélections où on va associer nos partenaires de la direction de l'encadrement. Et c'est une fois la totalité des candidatures étudiées qu'on va établir la liste des gens qui vont être convoqués à l'entretien. Alors, juste un petit rappel des dates des entretiens. Pour les personnels de direction en poste à l'étranger, ces entretiens auront lieu du 12 au 16 décembre 2022 et du 11 au 31 janvier 2023 pour les personnels de direction en poste en France. Alors, tous les candidats sont prévenus par courriel de la suite de donner leur candidature une semaine avant le début des entretiens. Donc, les modalités seront définies, explicitées voilà, dans ce courriel. Et les candidats non sélectionnés recevront un mail personnalisé avec les motifs de non-sélection. Alors, un petit focus sur l'entretien, il dure environ 40 minutes. Avec une présentation de 10 minutes de la part du candidat, suivie d'un temps d'échange avec les différents membres du jury. Alors, pour revenir sur la composition du jury, outre les représentants de l'agence, que ce soit la direction de l'agence, la DRH et les différents services associés, il y aura également des représentants de la direction de l'encadrement de l'inspection générale et de la mission laïque française quand les postes voilà, concernaient également la mission laïque française. Donc, ces entretiens, à l'issue de ces entretiens, il y a une phase de positionnement interne à l'agence. Et ces propositions, ce positionnement est validé par la CCPC, qui aura lieu a priori cette année, sauf modification de date de dernière minute, le 23 février 2023. À l'issue de la CCPC, une fois que le recrutement est validé, le bureau du recrutement se charge de l'envoi des propositions de poste aux candidats retenus et sélectionnés. Et là, on va laisser un laps de temps, en général une petite semaine, aux candidats pour répondre. Alors, je n'ai pas évoqué aussi également quelque chose, c'est que, outre les candidats vraiment positionnés sur chaque poste, on fonctionne avec ce qu'on appelle une liste de réserve. C'est-à-dire qu'on positionne un certain nombre de personnels qui peuvent être appelés dans un second temps en cas de poste non pourvu, de, par exemple un candidat qui va refuser un poste suite à une proposition de l'agence, un désistement, etc. Et on fait appel à cette liste de réserve avant de relancer un appel à candidature, de relancer le mécanisme de toute la sélection et de la publication des postes. Donc, si le candidat accepte le poste, le bureau de recrutement se charge de l'envoi de la demande de détachement à la direction de l'encadrement. Et également, une étape importante, on envoie une demande d'agrément au poste diplomatique et c'est seulement une fois l'agrément obtenu que le recrutement est validé à 100%. Et une fois que l'accord de détachement est obtenu, pardon, et que le poste diplomatique a donné son agrément, eh bien la phase de recrutement se terminera en ce qui me concerne, et tous les dossiers des candidats recrutés sont transférés au bureau de la gestion administrative, ici à la DRH, et qui est notamment en charge de la prise en charge administrative et financière du candidat ou de la candidate recrutée.
Merci beaucoup pour ces informations assez déjà précises sur la procédure de candidature et la procédure de recrutement. Alors juste un mot qui a été employé, qui est une formulation qui a été employée par M. Le Serre et qui est importante, qui concerne le temps long et court. Je pense que ça peut ne pas parler à certains, du moins pour ceux qui candidatent pour la première fois. Pour ceux qui candidatent depuis plusieurs fois, c'est une réalité. C'est-à-dire que vous allez vous positionner là sur des vœux avant début octobre. Nous ne reviendrons vers vous que tardivement, certainement fin décembre, début janvier. Enfin, on essaiera de le faire le plus tôt possible, mais pour des entretiens qui ont lieu en février. Et ça ne veut pas dire que si vous avez vraiment cette volonté de partir à l'étranger, que vous devez attendre le moment où on vous sélectionne pour commencer à réfléchir au poste que vous souhaitez occuper ou sur lequel vous souhaitez candidater. Je pense que c'est important que votre réflexion ne cesse tout au long de cette phase un peu longue d'avant le recrutement. Ça paraît très important parce que certains nous disent après, ah oui, mais vous m'avez prévenu en janvier, j'ai que 15 jours pour me préparer. On vous prévient dès maintenant, c'est-à-dire vous êtes prévenu depuis la publication des postes que l'on a faite il y a maintenant une semaine, jusqu'au moment où certains d'entre vous seront amenés à venir aux entretiens et donc pourront commencer, auront fait ce parcours pour se projeter sur ce poste-là. Je pense que c'est important qu'on en reparle de ça et que vous soyez bien au fait de ça, parce que ça peut générer chez vous à la fois un sentiment de dire ben, on ne s'occupe pas de moi, j'ai candidaté et puis qu'est-ce qu'il faut, etc. Mais ça vous a été expliqué, on a toute l'étude des dossiers, on a tout un travail de sélection à faire et on ne le fait pas seul, on le fait avec nos collègues du bureau du recrutement et de l'encadrement de Paris. On le fait donc avec le directeur de l'agence. Donc voilà, il y a un vrai travail qui se fait, qui amène à cette sélection et qui vous amènera ensuite aux entretiens. Donc le travail, il doit commencer maintenant dans la projection future sur ce que vous voulez faire.
Une précision avant de revenir sur vraiment le statut des personnels détachés d'encadrement à l'agence. Sur les entretiens, en fait, vous êtes invité en entretien sur l'ensemble des vœux que vous avez formulés, pas sur un poste ou quelques postes particuliers, voire sur l'ensemble en fait, des postes publiés. Nous avons une politique un petit peu de vivier par rapport à ces entretiens. Donc, vous ne serez pas entendu sur un seul poste au moment des entretiens. Donc, effectivement, élargissez un petit peu votre panel de vœux, comme vous l'indiquez, Monsieur Le Serre. Une question est posée là sur le chat. Il faut que vous ayez conscience que suivant les postes publiés, on peut avoir 120 personnes pour un poste, on va dire, au Canada. Hein, c'est une des destinations les plus prisées. Et puis, quelques dizaines de candidatures seulement sur des postes moins attractifs. Donc, effectivement, il faut quand même avoir à l'esprit que plus vous ouvrez votre panel de vœux, plus vous avez de chances d'être entendu en entretien et d'obtenir un poste. Mais bon, je pense que M. Pujol y reviendra plus en détail tout à l'heure sur le choix des vœux. Pour ma part, je voulais vous apporter quelques précisions en fait sur le statut personnel de détaché à l'étranger. Donc, c'est pendant la durée du contrat, qui est un contrat de 3 ans, vous êtes détaché du ministère de l'Éducation nationale. Donc, il faut être titulaire du ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir être détaché. Un premier contrat de 3 ans qui peut être renouvelé 2 fois pour une période d'un an. Donc, c'est maximum 5 ans sur le poste, avec potentiellement une possibilité d'avoir un deuxième poste en reparticipant au recrutement. Pendant la durée du contrat, donc vous allez être rémunéré sur votre indice de référence par rapport à votre corps et à votre grade, auquel va s'ajouter votre bonification indiciaire qui sera liée donc à la catégorie du poste que vous allez occuper. Et puis vient s'ajouter en fait à cet indice une indemnité géographique spécifique, une indemnité géographique et de fonction spécifique, l'ancienne indemnité d'expatriation pour ceux qui ont déjà été dans le réseau ou qui sont dans le réseau. Cette indemnité, en fait, elle permet de couvrir les frais liés à des postes donc à l'étranger, que ce soit par rapport au coût de la vie, au coût du logement, frais de scolarisation qui, eux, sont couverts par des majorations familiales qui sont versées en fonction de l'âge de vos enfants. Que ce soit les majorations familiales ou l'indemnité spécifique, elles dépendent en fait à la fois de la fonction occupée et du pays. Donc là, on ne peut pas vous renseigner en fait au cas par cas sur le montant de cette indemnité. Si vous êtes invité en entretien, on pourra vous donner plus d'informations. Les collègues du bureau de la gestion administrative pourront vous donner plus d'informations, mais on ne peut pas vous renseigner et ce n'est pas un montant qui est publié que vous allez trouver par exemple sur Internet. Donc, pendant la durée de ce détachement, vous êtes détaché sur un contrat. Il n'y a pas de corps d'accueil à l'AEFE. Vous êtes toujours titulaire de l'Éducation nationale, détaché sur un contrat. Donc, vous continuez à avancer dans votre administration d'origine, dans votre carrière de personnel de direction, à la fois à changer, à avancer au niveau de l'échelon, et vous pouvez participer aussi aux campagnes d'avancement pour accéder à la classe, par exemple. Autre point important, on nous interroge souvent en fait sur la scolarisation des enfants dans notre réseau. Effectivement, les majorations familiales permettent de couvrir les frais de scolarisation qui peuvent être importants dans nos établissements à l'étranger. Vous avez pu le remarquer si vous avez regardé un petit peu en détail sur le site des établissements. Sur la couverture en fait sociale, vous continuez à cotiser effectivement à la sécurité sociale et après vous pouvez prendre une mutuelle complémentaire qui vient en fait couvrir les frais de santé à l'étranger et vous continuez à cotiser pour la pension civile. Donc, je pense que sur les modalités, j'ai dû faire le tour sur les principales oui. modalités.
Je vais revenir un peu sur les vœux. Et sur l'élargissement des vœux qui ont été déjà évoqués par mon collègue tout à l'heure, mais juste pour vous rappeler que c'est un moment important, cette sélection des vœux, et c'est un moment, je laisserai Fabienne revenir un peu sur le projet personnel et le projet professionnel. Moi, je veux juste m'attacher aux vœux pour vous dire que ce qui est important dans les vœux que vous faites, c'est que ce ne soit pas des vœux par défaut et que ce ne soit pas simplement l'image que vous avez d'une destination que vous avez connue parce que vous avez voyagé et que vous vous dites que vous iriez bien là-bas. Je suis très clair là-dessus, c'est-à-dire que c'est bien d'aller dans une destination que l'on souhaite découvrir, c'est bien d'aller dans un endroit que l'on souhaite où on souhaite vivre. En revanche, ce qu'on va y faire, c'est diriger un établissement scolaire. Donc, la seule et unique motivation, c'est la direction de l'établissement scolaire. Après, bien sûr, si cette corrélation, si on peut être tout à fait arrivé en même temps à avoir un projet personnel et familial qui permet de s'installer dans un pays que l'on aime bien, c'est parfait. Maintenant, c'est vraiment ça qui est au cœur. Donc, faites des choix de vœux qui sont en correspondance avec votre parcours professionnel. Faites des choix de vœux qui sont en correspondance avec votre maîtrise de la langue, puisque ça fait partie d'un sujet, d'un sujet aussi très important. Et on a aussi l'extension des vœux qui vous sera aussi sur laquelle vous devez répondre, qui va nous permettre, dans le cadre de vœux complémentaires, on a fait une liste de postes là, il se peut qu'en cours d'année, pour des raisons multiples, on ait des postes qui apparaissent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher dans les personnes qui ont été invitées aux entretiens, qui n'ont pas été retenues peut-être pour partir, qui ont été classées, mais qui n'ont pas été retenues pour partir, et qui ont fait des vœux dans cette zone géographique, nous allons peut-être les ressolliciter pour leur proposer un poste qui se libérerait dans la zone géographique qui vient de se libérer par un collègue ou par une collègue qui a libéré le poste. Donc, cette notion de vœux, elle est importante. Il me semble aussi qu'il est aussi dans votre réflexion, il est important de réfléchir au parcours qui est le vôtre pour engager un parcours chez nous. La spécificité de nos établissements, je ne l'ai pas dit, mais elle est au cœur de votre métier. Vous allez être le chef d'établissement, et je ne dis pas le proviseur, je dis le chef d'établissement, à la fois d'une école primaire, à la fois d'un collège, et peut-être d'un lycée. Alors, peut-être tout ne sera pas ouvert dans votre établissement, mais il peut y avoir tout ça. Donc, ça veut dire que vous allez avoir en responsabilité des enseignants du premier degré qui peuvent enseigner en maternelle, qui peuvent enseigner en élémentaire, et puis vous aurez des enseignants du secondaire qui enseigneront en collège ou en lycée. Cette responsabilité-là, elle vous oblige un petit peu, distille votre prise de fonction, non pas à maîtriser ce qu'est la direction du premier degré, puisque vous serez souvent épaulé par un directeur du premier degré, elle vous oblige à quand même à vous rendre compte un peu de ce qu'est la gouvernance d'une école du premier degré. Par exemple, il y a un conseil d'école, vous n'allez pas le piloter, c'est le directeur d'école qui le pilote. En revanche, vous allez l'accompagner sur des questions budgétaires, vous allez l'accompagner sur le calendrier scolaire, vous allez l'accompagner sur lorsqu'on présentera le compte financier. Donc tout ça, ça veut dire que vous êtes le référent, le responsable de toute l'école, et vous êtes le supérieur hiérarchique de tous les personnels, bien sûr, y compris des personnels du premier degré. Cette posture-là aussi, elle est importante, parce que c'est une structure que l'on connaît dans quelques établissements en France, mais ils ne sont pas très nombreux, hein. Les cités scolaires qui vont de la maternelle à terminale en France sont peu nombreuses. Donc voilà votre positionnement tel que vous devez l'être. On vous a dit aussi que par rapport à ces vœux, on souhaitait que vous ayez une expérience une expérience générale du collège et du lycée. Oui, c'est important, parce que vous allez avoir les deux à piloter. Mais ça n'est pas rédhibitoire non plus. C'est-à-dire que vous pouvez candidater avec une seule expérience pour venir chez nous. On va regarder ce qu'il faut. Dans des établissements de taille plus petite, et on en a de plus en plus dans notre réseau, on cherche aussi des collègues. Ça n'est pas un critère de discriminant, mais on cherche aussi des collègues parfois qui ont une expérience dans le premier degré, parce que ça nous permet, si vous voulez, de compléter dans le parcours professionnel ce premier degré et ce second degré, et on a une expérience globale là-dessus. De la même façon que si vous êtes principal adjoint de collège, vous pouvez candidater sur un poste de proviseur adjoint dans notre candidature. Après, c'est le nombre de candidatures, c'est les compétences des gens qui vont faire qu'on va retenir votre dossier ou qu'on ne va pas le retenir. Mais en aucun cas, nous allons vous éliminer sur un manque de compétences. On sait très bien qu'en France, on ne démarre pas toujours principal adjoint, proviseur adjoint. On peut passer d'abord par la phase de principal adjoint avant de changer vers un poste de proviseur adjoint, de revenir parfois principal de collège avant de devenir proviseur de lycée. Mais l'expérience des deux est pour nous intéressante, parce que ces établissements que nous dirigeons à l'étranger ont cette continuité scolaire et pédagogique qu'il faut quand même connaître. La réforme du collège, qui a eu lieu maintenant il y a bien longtemps, est au cœur encore de nos collèges. L'accompagnement des élèves, les cycles qui ont été redéfinis avec la fin de la sixième, la fin du cycle 3, mais vous le savez tous mieux que moi, le cycle 4 et le lycée font partie des éléments que vous devez maîtriser dans le cadre de la direction d'un établissement que nous souhaitons vous confier si vous venez à l'étranger. Donc, cette réflexion sur les vœux, elle est, en un cadre professionnel, hyper importante pour ne pas que vous soyez, si vous voulez, exclu. Je donne un dernier exemple et il est fondamental. Si vous êtes proviseur adjoint d'un établissement, évitez de demander un poste de chef d'une troisième catégorie. On ne va pas vous retenir votre candidature. Non pas parce que peut-être vous n'avez pas les compétences, mais certainement que dans les gens qui ont candidaté, on a des gens qui ont une expérience de direction en responsabilité totale qui risquent de passer devant vous. Ayez des vœux qui sont vraiment en corrélation avec votre parcours professionnel et qui sont en corrélation avec le type d'établissement que vous dirigez. Dans les vœux que nous avons publiés, je vais prendre cet exemple au hasard, chers collègues, c'est le lycée de Londres. Il peut peut-être attirer un maximum de monde. Évidemment, c'est un lycée emblématique de notre réseau. Néanmoins, là-dessus, on cherchera des gens qui ont une expérience de gros établissements scolaires, on cherchera une expérience d'établissements, de chefs d'établissement qui ont des sections, par exemple, internationales. On aura tout cela qui va intervenir dans la sélection que l'on va faire et des gens qui ont certainement piloté ou qui dirigent en France des quatrièmes catégories, voire des quatrièmes exceptionnels, ont plus accès à ce type de poste que d'autres. Je le dis d'une manière, je veux être transparent avec vous, je veux vraiment que vous veniez, si vous choisissez de faire un dossier, que vous veniez en ayant une véritable connaissance de ce qu'il vous attend et ce sur quoi on va regarder votre dossier. Ça aussi, c'est vraiment au cœur de la réflexion qui doit être la vôtre et de ce que vous voulez faire pour le réseau. Je compléterai simplement deux choses qui vous ont été dites sur le contrat. Vous partez pour 3+1+1. Et vous avez vocation à faire peut-être un deuxième contrat. Et pour ceux qu'on va recruter comme proviseurs adjoints ou principaux adjoints, on en a quelques-uns, très peu, je ne sais pas s'il y en a cette année, mais il y en a. Vous ne ferez pas deux contrats d'adjoints. Vous ne ferez pas deux contrats d'adjoints. Vous ferez un premier contrat d'adjoint et le deuxième contrat que vous ferez si vous restez chez nous, on souhaite que vous montiez en compétences et que vous deveniez chef d'établissement. Et nous faisons ça depuis des années. Alors, ça veut dire que pendant ces 5 années où vous êtes adjoint, il faut que le chef d'établissement vous accompagne pour monter en compétences. Et nous le ferons aussi, les chefs de secteur le feront, tout le monde vous accompagnera. Mais on ne va pas créer, si vous voulez, le métier de proviseur adjoint. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous deveniez en responsabilité totale à un moment donné dans le réseau. Après 5 ans adjoint, vous avez une connaissance, il vous manque du bagage, vous allez changer de costume, il vous manque la partie budgétaire, il vous manque la partie responsabilité totale, eh bien, on va vous accompagner pour essayer de l'apprendre, mais là aussi, dans un petit établissement, pas dans un très gros. Parce que quand vous allez, on en parlera aussi, il y a la problématique du retour en France qui est aussi au cœur de cette sélection. Donc voilà des éléments qui sont au cœur des vœux et au cœur du recrutement tel que nous l'imaginons. Je passe la parole à Fabienne Chartier, qui est responsable du recrutement, peut-être pour vous rappeler l'importance de la réflexion personnelle autour de cette candidature.
Voilà, oui. Donc, j'aurais voulu effectivement, en complément de tous ces éléments par rapport à un projet professionnel construit, par rapport à une réflexion sur les vœux, il y a aussi un projet qui est un projet personnel et familial qui est primordial en fait pour avoir une expatriation réussie. Il y a plusieurs éléments. Il faut que vous ayez conscience qu'en partant dans un de nos établissements à l'étranger, l'agence ne peut pas assurer que le conjoint ait forcément un emploi, que ce soit dans le secteur privé ou même dans l'établissement. Si votre conjoint conjointe est enseignante, par exemple, il existe des postes de détaché enseignant ou des postes en contrat local, mais ce n'est qu'une possibilité. L'agence ne peut pas vous assurer en fait qu'il y aura un poste pour votre conjoint. Donc, dans ce projet en fait familial, il faut que vous envisagiez partir avec un seul poste de détaché, par exemple de chef d'établissement, et que votre famille vous suive sans avoir forcément d'emploi. De même pour les enfants, en fait, là, il faut quand même envisager cette nouvelle vie dans un établissement scolaire à l'étranger. C'est un élément nouveau, ça peut être un environnement vraiment très différent, pas forcément facile pour des enfants. Donc, c'est vraiment une réflexion générale qu'il faut avoir à la fois sur un projet personnel, familial, professionnel, pour que votre expatriation soit réussie. Donc, je pense qu'un des éléments importants pour préparer ce départ à l'étranger, c'est de contacter en fait les collègues qui sont déjà chefs d'établissement ou adjoints pour d'une part échanger vraiment sur l'organisation de nos établissements à l'étranger, pour avoir des informations sur le contexte local, culturel, sécuritaire. On nous pose de nombreuses questions au niveau sanitaire aussi. Le meilleur moyen, en fait, je pense, c'est de prendre contact avec les chefs d'établissement sur place. Vous avez sur la liste, sur le site de l'AEFE, toutes les coordonnées en fait de nos établissements et les collègues vous répondront effectivement pour avoir vraiment une projection la plus précise possible sur ce projet. Un élément important aussi, ça a été posé sur le chat, la composition familiale n'est pas du tout un critère de sélection pour l'agence. Par contre, c'est à vous effectivement de réfléchir sur cette possibilité de partir en famille. Est-ce que vous envisagez de partir en famille dans certains pays qui peuvent paraître hostiles? Donc, ce n'est pas l'agence qui va vous bloquer, c'est à vous effectivement d'avoir cette réflexion, de construire en fait ce projet en famille. Et de comment le construire à partir de maintenant, le moment où vous déposez votre dossier, vous formulez vos vœux, le moment où vous allez être reçu en entretien, où vous allez, vous aurez peut-être affiné votre projet, et puis le moment où vous allez avoir une proposition de poste, je l'espère pour vous. Donc effectivement, vraiment un projet qui se construit dans la durée. Voilà, c'est les principaux points que je voulais. Si, un élément important aussi, c'est la scolarisation de vos enfants. Vous avez pu voir sur certains profils d'établissements où effectivement, il n'y a pas de scolarité, par exemple en lycée proposé, ça peut être par le CNED. Donc ça, au niveau du projet familial, c'est important de voir si vous envisagez de scolariser vos enfants par le CNED sur une longue période. Là, vous partez sur 3 ans, voire 5 ans. Donc effectivement, il faut réfléchir sur cette possibilité.
Merci pour ces éléments. Je vais reprendre la parole peut-être sur le contexte culturel du pays dans lequel vous allez candidater, parce que c'est en relation totalement avec les vœux. C'est aussi en relation avec la maîtrise de la langue. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais c'est un élément qui est de plus en plus important dans le réseau. Quand vous partez à l'étranger, vous partez dans un pays qui a une histoire, qui a une culture, et il est important que vous le regardiez, l'établissement français n'est pas, si vous voulez, n'est pas la France. On a plus d'établissements français, ou quasiment plus, qui sont en extraterritorialité. Nous sommes dans le pays d'accueil. Nous devons nous adapter, notamment pour les personnels de droit local, aux règles du pays d'accueil, à la législation du pays d'accueil, à la législation du travail, mais aussi à d'autres législations sur différents sujets, et vous aurez à travailler avec le pays. Donc cette connaissance du pays à travers sa culture, à travers son histoire, est quand même un élément aussi que vous devez appréhender dans le choix des vœux que vous allez effectuer. La notion de langue, vous avez vu dans les profils que l'on a publiés, elle peut être exigée et elle peut être conseillée. Je crois aujourd'hui qu'il faut maîtriser une langue étrangère quand on part dans des pays où, par exemple, le français n'est pas la langue officielle. Vous avez une partie du Maghreb, une partie de l'Afrique qui permettent encore de travailler en ne maîtrisant que le français. Ça devient les seuls endroits. Si vous partez en Amérique du Sud, il est évident que la maîtrise de l'espagnol est nécessaire. Si vous partez dans un pays, je vais dire en Asie, au Moyen-Orient, la maîtrise de l'anglais est une partie de l'Afrique, hein, toute l'Afrique anglophone, la maîtrise de l'anglais est plus que nécessaire. Et si vous partez en Allemagne, alors là, n'en parlons pas, il faut, ça a été dit, une maîtrise de l'allemand qui sera regardée non seulement par les comités de gestion, mais par le poste diplomatique aussi, parce que là, c'est votre relation avec les parents d'élèves qui est au cœur de votre travail. C'est votre relation avec le comité de gestion qui pilote l'établissement, qui parfois, vous avez des membres qui ne parlent pas français, qui ont des enfants scolarisés ou pas, et suivant la manière dont le comité de gestion est géré. Et donc, la maîtrise de la langue, non, peut-être pas pour vous exprimer totalement, mais d'avoir, si vous voulez, une maîtrise qui se rapproche d'un C1, c'est-à-dire que si on y arrivait, ça serait l'idéal pour tout le monde. Mais on sait très bien que, je prends le cas de Londres aujourd'hui, pour Londres, c'est très clair. Hein, il y aura même un test de langue que vous devrez passer avant de prendre votre poste. Donc là, il faut un C1 absolument pour pouvoir y accéder. Donc ça, c'est là où on est très clair. Mais on nous le demande partout. On nous le demande aujourd'hui au Moyen-Orient, on nous le demande au Proche-Orient, on nous le demande en Asie. Donc dès maintenant, si vous avez envie de partir et si vous avez envie de vous remettre dans un bain linguistique, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre qu'on vous dise au mois de décembre, il faut y aller. Ça sera trop tard. Et faites-le dès maintenant. Et nous, si vous nous dites que dans votre dossier, vous êtes en train de prendre des cours de langue, vous nous le dites. Si vous arrivez à nous donner une certification en langue et à la justifier dans le dossier, c'est beaucoup mieux. Et donc, une certification en B1, B2, déjà, c'est bien de l'instaurer dans son dossier parce qu'on voit bien que la maîtrise de la langue est engagée et que donc, après, vous allez progresser sur place. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. On y arrive et on arrive à progresser dans le cadre de la mission qui est la sienne à l'étranger. Mais aujourd'hui, cette interculturalité, elle est regardée par le post-diplomatique aussi. On vous a parlé de l'agrément. Cet agrément, on nous interroge aussi sur la connaissance de nos chefs d'établissement du pays dans lequel ils vont. Alors, bien sûr que certains pays sont plus sensibles que d'autres, on l'a dit. Certains pays du monde aujourd'hui sont sensibles et il y a un regard particulier du poste diplomatique sur les personnels français qui viennent piloter nos établissements. Donc, prenez-y garde et inscrivez-vous, si ça n'est fait, à des cours pour vous remettre à niveau, au niveau des langues, quel que soit le niveau qui est le vôtre. Ça sera de toute façon un plus dans votre prise de fonction. Un plus dans votre prise de fonction. C'est une évidence et pour ceux qui ont été déjà dans le réseau, ils savent très bien de quoi je parle, surtout quand on a été dans des pays anglophones ou hispanophones. C'est une nécessité aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez, sur le plan des vœux de la culture, ce qu'on voulait vous dire. Peut-être maintenant vous donner des informations sur la prise en charge par le bureau du recrutement et notre bureau, qui est le bureau des missions et voyages, une fois qu'on vous a recruté. Une fois que vous avez signé votre contrat, la prise en charge de votre billet et de votre déménagement.
Oui, tout à fait. En fait, en complément des indemnités qui sont liées à l'exercice de vos fonctions à l'étranger, l'agence prend en charge les voyages de prise de poste et de fin de mission pour vous et l'ensemble de votre famille, donc conjoint, marié ou pacsé et vos enfants à charge, et verse également une indemnité de changement de résidence qui est une indemnité forfaitaire mais qui permet de couvrir les frais d'un déménagement classique, je dirais, raisonnable. Sont également pris en charge à des périodicités différentes suivant les pays, des voyages de congé. Donc, suivant les pays dans lesquels vous allez partir, vous aurez droit à un voyage de congé, soit tous les ans, soit tous les 2 ans, soit tous les 3 ans. Un voyage de congé qui, en général, est pris pendant l'été. Donc, cette prise en charge vient en complément, en fait, effectivement, des avantages, des indemnités complémentaires liées à la rémunération.
Et cela, quelle que soit la composition familiale, à partir du moment où vous ayez droit, bénéficie à la fois des billets pour la prise en fonction et des billets pour les congés.
Oui.
Ça, c'est important parce que des fois, vous hésitez parce que vous dites on est une famille nombreuse, etc. On ne le regarde pas, hein. Comme ça a été dit, on ne regarde, ça ne fait partie de critères discriminants par rapport à votre candidature. La composition familiale, on la prend telle qu'elle est. En revanche, on vous demandera d'être ou marié ou pacsé pour que la prise en charge puisse se faire, puisque ce sont les deux, c'est ce qu'on regarde dans le cadre de cette prise en charge des billets d'avion. Ceci dit, pour compléter ce que vient de dire Mme Chartier, ce moment du voyage, c'est aussi un moment important, vous allez nous solliciter. Vous avez essayé de mes collègues pour dire, voilà, quand est-ce que je vais toucher d'indemnité de changement de résidence, mon billet d'avion, il passe par plusieurs endroits. Eh bien oui, il passe par plusieurs endroits. On passe avec une agence de voyage et on cherche un billet d'avion qui soit sur des compagnies qui sont des compagnies qui permettent de faire les voyages, qui sont des compagnies fiables, je veux dire. Et puis, le billet d'avion, il est pris par nous et il est pris en charge en totalité. Donc, on ne peut pas toujours s'adapter à votre volonté de dire ben, « moi, j'aimerais bien avoir un vol direct sur Air France, etc. » Des fois, on va vous faire une escale, on va vous faire un voyage. Mais ça, mais les équipes qui travaillent au bureau des voyages sont tout à fait à l'écoute et travaillent avec vous sur ces problèmes-là. On vient de vivre une situation très particulière avec la Covid. On a des collègues qui n'ont pas pu rentrer en France pendant plusieurs années. On a des collègues pour qui on a pris des billets pour venir en France et on a dû changer leur billet de retour sur des congés parce qu'il y a des vols qui ont été annulés, parce qu'il y a eu des problèmes sanitaires qui ont fait qu'ils n'ont pas pu réintégrer le pays. Mais tout ça, on sait faire, on le fait avec vous. On a par exemple des collègues qui sont restés en France parce qu'ils ne pouvaient pas réintégrer le pays. Tout ça aussi, on sait faire dans notre gestion et dans notre accompagnement, si vous voulez, des personnels. Et ça fait partie, si vous voulez, de notre accompagnement en termes de ressources humaines et des personnels que l'on va recruter pour le réseau. Et ça fait partie aussi pour vous rassurer. D'ailleurs, que voilà, on a des équipes qui sont très à l'écoute et qui vont vraiment être à vos côtés pour assurer votre prise de fonction dans les meilleures conditions. Un deuxième élément important, c'est que sur le détachement, nous ne sommes pas à la manœuvre. Hein. C'est bien le ministère et de l'Éducation nationale et la direction de l'encadrement qui est à la manœuvre. Sur l'agrément du poste, nous ne sommes pas à la manœuvre. C'est bien le poste diplomatique qui décide s'il octroie ou pas l'agrément à un chef d'établissement quand on lui propose ce chef ou cette chef comme personnel de direction pour l'établissement, le lycée français dans son pays. Donc ce sont deux informations importantes et on a eu des refus, hein, des refus de détachement, on a eu des refus d'agrément et voilà, on en est désolé pour les personnes. Mais ce n'est pas nous qui pilotons ça. Et on essaie toujours d'accompagner le collègue à qui ça arrive, parce que quand ça arrive, des fois, vous avez déjà signifié que vous quittez l'établissement dans lequel vous êtes. Donc, vous ne pouvez pas rester dans l'établissement dans lequel vous êtes en France. Et donc, avec nos collègues de l'encadrement et nous, si on a des solutions en interne, eh bien, on cherche des solutions pour vous permettre, si à partir du moment où on vous a recruté, de pouvoir partir à l'étranger. Donc ça fait partie, si vous voulez, de cette gestion que l'on a pour la prise de fonction et pour vous accompagner dans cette mission qui pourrait être la vôtre à l'étranger. Donc, vous voyez, on a essayé de faire le tour de ces particularités, la prise en charge des voyages. Il y a une thématique encore importante qui est celle du retour. Parce que quand vous partez, eh bien, il va bien falloir revenir. Et revenir d'abord à la fin du contrat, ce qui est déjà bien, ça veut dire qu'on a réussi sa mission, on a fait 3 plus 1 plus 1, et ensuite, on peut peut-être faire une deuxième mission, donc ça veut dire peut-être 10 ans. Au bout de ces 10 ans, on se posera la question du retour. Et il faut, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Il ne faut pas partir dans l'idée que vous ne reviendrez plus. Ça serait une erreur, et ça risquerait d'être pour vous le sentiment à suite de quelque chose que vous n'arriverez pas à vivre. Le retour, il fait partie de ce parcours à l'étranger. Et c'est vrai que quand on voit le pilotage de l'établissement à l'étranger, qui sort un peu de ce que vous vivrez et ce que vous vivez aujourd'hui en France. Parce que là, si vous voulez, on a une capacité notamment d'accompagner des projets, une capacité de développer son établissement, une capacité, si vous voulez, de pilotage qui est beaucoup plus large que ce qu'on connaît en France. Certains ne s'imaginent plus revenir en France à la fin de ces 5 années, par exemple, à l'étranger. C'est un tort et c'est une erreur. C'est un tort et c'est une erreur. Et il faut le penser. Alors, bien sûr, si vous êtes… j'ai vu une question qui disait « Est-ce que l'âge intervient sur le recrutement ?» Non. Le seul critère que l'on a sur l'âge, c'est que vous soyez en capacité de faire au moins 3 ans, c'est-à-dire de faire un contrat de 3 ans. Voilà. Si dans votre âge vous permet de faire un contrat de 3 ans, que vos compétences ont été jugées comme celles qui étaient nécessaires à l'adéquation entre le profil et le poste, eh bien on va vous prendre et au bout de 3 ans, vous ferez valoir vos droits à la retraite et pour nous, vous aurez fait un contrat. Donc là, je n'interviens pas dans ce choix que l'on fait des candidats. Donc, vous voyez, on essaie vraiment de vous donner toutes les clés qui devraient vous permettre de choisir et de postuler pour venir à l'étranger. On sait très bien aussi que, je parlais du retour, hein, quand on parle du retour, vous n'êtes pas attendu au retour. Je crois qu'il faut se dire les choses simplement. Vous n'êtes pas attendu. Vous êtes plutôt regardé comme ayant été quelqu'un qui est parti à l'étranger. Alors, je vais donner un vieil exemple. Je suis un vieux DRH, donc je peux le faire. L'image parfois du chef à l'étranger qui vit sous les cocotiers et qui n'en fout pas lourd, c'est fini ça, hein? C'est fini, hein. Vous avez une charge de travail en France qui est importante. Je vous garantis qu'à l'étranger, ça sera supérieur. Je vous le garantis. J'ai vu passer un petit mot en disant, est-ce qu'il y a des astreintes les week-ends? Est-ce qu'il y a des astreintes pendant les vacances? Oui, il y en a. Parce qu'on n'est pas encore soumis au même régime que votre régime de personnel de direction en France et que nous, on a une vieille circulaire qui pilote cela. Et donc, il y a des astreintes sur les petites vacances, mais vous aurez des vacances, vous aurez des congés et vous aurez des week-ends. Et après, c'est l'équipe en elle-même qui devra gérer ce travail-là et qui le gérera avec le poste diplomatique. Tout ça pour vous dire que quand vous allez partir à l'étranger, imaginez qu'il faudra revenir, et bien il faut aussi l'imaginer. Et quand vous l'imaginerez, là aussi, de la même façon que je vous ai dit qu'il faut que vous ayez un regard sur votre parcours professionnel pour candidater à l'étranger, il faudra que vous ayez le même regard quand vous allez rentrer en France. Vous êtes proviseur adjoint d'une quatrième catégorie, vous n'allez pas demander proviseur d'une troisième catégorie en France. Enfin, je veux dire, quand vous connaissez les difficultés pour tous nos collègues qui sont actuellement, que vous connaissez, vous, pour avoir la direction d'un lycée de troisième catégorie en France, imaginez un petit peu ce que ça peut représenter comme pour vis-à-vis d'un rectorat quand on dit, mais attendez, on va le dire comme ça. Il faut revenir à des choses qui sont tout à fait liées au parcours, c'est-à-dire personnel en responsabilité d'une deuxième catégorie, voilà quelque chose qui est tout à fait raisonnable et qui sera accompagné par l'encadrement sans aucune difficulté. Il sera accompagné. Après, vous verrez, il y a des choix de vœux, mais ce retour, il faut y penser. Il ne faut pas le vivre comme un échec. Il ne faut surtout pas le vivre comme un échec. Et il ne faut pas le vivre comme quelque chose qui ne vous permettra pas de repartir. Il y a des collègues qui sont rentrés, qui ont fait un temps en France et qui sont repartis à l'étranger. Et on a besoin si vous voulez, de cette respiration et parfois de ce retour en France pour repartir à l'étranger. Je trouve que ça fait partie d'un parcours nécessaire dans le métier de personnel de direction. Donc, ce retour, on l'accompagne aussi avec nos collègues de l'encadrement. Et on a un regard, alors vous aurez un dossier qui sera à remplir de votre retour, qui est une évaluation qui sera faite aussi par le poste diplomatique et qui est ensuite faite par la DRH. Et avec les collègues de l'encadrement, de la direction de l'encadrement, eh bien, vos vœux sont étudiés et puis vous aurez des entretiens avec eux. Et on essaye de faire au mieux. Alors des fois, on a des gens qui sont très heureux de leurs affectations, on en a certains qui le sont beaucoup moins, mais il y a un regard individuel pour chacun des retours. Ça quand même, il faut que vous le sachiez. Alors, parfois, il ne correspond pas à ce que vous vouliez, mais ça fait partie des choses. Alors, je regrette de dire ça aujourd'hui, mais je crois que c'est important, parce que partir, c'est aussi se projeter dans un retour qui sera obligatoirement à faire à un moment donné de votre carrière professionnelle si vous partez à l'étranger. Donc, voilà les éléments, je dirais, saillants que nous souhaitions mettre en évidence sur cette candidature. Il y a un autre élément quand même que je voudrais évoquer assez rapidement, c'est un sujet dont vous allez entendre parler à l'étranger, autour des instituts régionaux de formation. Une des spécificités de nos établissements à l'étranger, ou de notre parcours élève à l'étranger, c'est quand même un parcours en langue, je le dis comme ça, alors que nos établissements ont des parcours en langue de très haut niveau. Le nombre de sections internationales est très important, il dépasse les 250, je crois. Et nous avons, depuis cette année, le bac international français, le bac français international qui a été mis en place, qui permet donc à des élèves qui ont ces parcours en langue de passer ce bac français international. Et pour accompagner tout ça et pour accompagner la formation de ces personnels qui travaillent dans nos établissements, eh bien, il y a des instituts régionaux de formation qui seront mis en œuvre à partir du 1er janvier 2023. L'objectif de ces établissements, qui remplacent ce que les anciens ont connu, qui s'appelait des établissements mutualisateurs, est de gérer dans un premier temps la formation continue du plan régional de formation continue de tous nos personnels, qu'ils soient détachés, qu'il soit en contrat local, qu'il soit titulaire ou qu'il ne soit pas titulaire de l'éducation nationale. Donc, on va accompagner les personnels et au-delà de cela, il y aura des formations qui se feront en fonction du plan avec les inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs référents de votre zone et qui accompagneront ce plan à destination de tous les personnels, bien sûr les personnels enseignants, personnels administratifs aussi. Et on veut de plus en plus que les personnels d'encadrement bénéficient de formation dans le cadre des plans de formation régionaux. Donc, ces IRF qui se mettront en place auront vocation à piloter cela, vous verrez. Mais à l'entretien, vous risquez d'être interrogé là-dessus, puisque ça fait partie d'une nouveauté. Donc, intéressez-vous à l'évolution de ces instituts régionaux à travers notre site, à travers les documents qui sont mis en liaison, qui sont mis dans le site de l'AEFE et qui vous permettent de connaître notre fonctionnement. Voilà aujourd'hui un petit peu les éléments saillants qui doivent vous permettre d'avoir un choix sur la candidature que vous souhaitez faire. C'est vraiment ce qu'on voulait apporter comme information complémentaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments, s'il y a des questions qui méritent peut-être maintenant qu'on commence à y répondre, si elles sont générales.
Nous avons beaucoup de questions par rapport, personnelles par rapport à des affectations actuelles, quelle est la catégorie qu'on peut demander. Il n'y a pas de tableau de correspondance. Si vous êtes principal adjoint, vous allez pouvoir demander un poste de proviseur adjoint de deuxième catégorie. On n'a pas ce. Il faudrait, ça va dépendre en fait de votre parcours professionnel, des vœux que vous allez formuler. Donc, nous n'avons pas cette correspondance. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas être trop ambitieux dans vos vœux par rapport à votre parcours professionnel, mais bon, ne vous limitez pas non plus et nous ne pouvons pas répondre à toutes ces questions qui nous sont posées. Il n'y a pas de tableau de correspondance vraiment comme il n'existe pas en France sur les vœux que vous pouvez formuler. Il y a aussi la question, mais je crois que monsieur l'avait abordé, sur le retour dans l'académie d'origine. En fait, c'est par la réintégration au ministère de l'Éducation nationale et c'est la direction de l'encadrement qui gère en fait ce retour en France en liaison avec l'AEFE. Mais il n'y a pas de retour systématique, je pense, dans l'académie d'origine.
Il y a une question qui a été posée sur est-ce que les postes sont logés ou pas. C'est une vraie question et c'est très important parce que je crois que vous avez, à ce niveau-là, c'est important quand il y a très peu de postes logés dans le réseau. S'ils sont logés dans le profil, c'est noté. Quand ça n'est pas noté, ça veut dire que le poste n'est pas logé, donc vous allez devoir chercher un logement. Et ça, c'est un élément à prendre en compte parce que dans ce qu'on vous a expliqué, dans l'indemnité que indemnité d'expatriation, mais aujourd'hui indemnité de fonction spécifique et de géolocalisation, elle vous permet, si vous voulez, de répondre à cela. Mais ça a un coût, ça veut dire que c'est un coût que vous devez, qui impactera votre budget et qui impactera ce que vous allez devoir mettre comme moyen dans ce logement. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, pour savoir le mieux, c'est d'envoyer un mail, c'est de prendre contact avec le chef d'établissement dans les postes que vous sollicitez. Alors, vous allez nous dire que parfois les gens ne vous répondent pas, ça peut arriver. Mais nous, on demande à nos collègues, pas de répondre immédiatement, mais de vous renseigner, de vous donner des informations sur les difficultés de logement, s'il y a besoin d'avoir un logement qui est sûr, s'il y a besoin d'avoir un logement à proximité de l'établissement, si on peut se loger plus loin, enfin tout ça. Et puis les coûts, qui sont les coûts du logement, aujourd'hui, c'est une vraie question, on comprend cela. Donc voilà, tous les postes ne sont pas logés, malheureusement, et il va falloir que vous choisiez et que vous associez votre logement si vous êtes retenu dans ce pays-là. Mais bon, vous n'êtes pas le premier chef, il y a eu des gens avant vous. Donc très souvent, il y a des logements de chef à chef qui se passent. C'est-à-dire qu'en prenant contact, le bail peut être changé, on reprend le bail du collègue restant. Tout ça, ça se fait dans le réseau et c'est des habitudes qui existent depuis longtemps. Donc, ça n'a pas de véritable. Il faut le savoir, mais ça veut dire qu'il va falloir que vous l'anticipiez parce que sinon, vous risquez d'être déçu parce que vous pensiez que vous étiez logé et que vous ne l'étiez pas. Et que donc, du coup, il y a un impact sur les revenus qui sont les vôtres. Je veux dire aussi quelque chose, mais là aussi, vous me permettrez de le dire avec l'expérience qui l'amène. L'expatriation en tant que chef d'établissement, c'est sûr que c'est un plus financier. On a l'impression que c'est un plus financier parce qu'on a cette indemnité d'expatriation, enfin, ex-indemnité d'expatriation. On a les majorations familiales si on a des enfants qui doivent couvrir les frais de scolarité. En revanche, regardez bien avant de partir et de ne pas être déçu ce que vous laissez et ce que vous allez récupérer quand vous partez à l'étranger. Je ne veux pas, moi, quand vous partez à l'étranger, que vous soyez au bout de quelques mois en train de vous dire « mais si j'avais su, je ne serais pas parti parce que ça ne correspond pas à ce que j'attendais, parce que je voulais faire une bascule financière et je ne la fais pas. » Et si c'est pour ça que vous partez à l'étranger, c'est un mauvais choix. Vous devez partir à l'étranger parce que vous avez envie de diriger un établissement français dans un pays qui vous attire, dans une culture qui vous attire, et de transmettre dans ce pays-là les valeurs de l'éducation nationale, les valeurs de notre République, les valeurs du système français. Si c'est pour ça que vous partez, c'est le bon choix. Alors bien sûr que le côté financier, je ne le nie surtout pas, il est important, mais il ne doit pas être l'unique motif de votre mission. Un dernier point aussi, je donne la parole à M. Le Serre après qui veut revenir peut-être sur les dossiers. Juste un mot aussi, quand on parle de notion de finance. Ça a été dit tout à l'heure, vous risquez de ne pas, si vous partez en couple, hein, quelle que soit votre composition familiale, vous risquez de ne pas avoir d'emploi pour la personne ou le personne qui vous accompagne. Et ça, il faut que vous l'intégriez. Et il faudra peut-être que vous disiez, si c'est quelqu'un qui est titulaire, et bien il va falloir qu'il prenne une disponibilité de droit pour vous accompagner. Et si jamais il risque d'avoir du retard, enfin voilà, il risque, ça doit s'anticiper. Ça doit s'anticiper parce que ça peut, il ne faut pas que ce soit une frustration de plus. Donc, discuter, c'est pour ça que le projet familial, il est au cœur de l'expatriation, il est au cœur de la prise de poste. Il est au cœur de la prise de poste. Je dirai un autre mot après, mais je laisse M. Le Serre. Si on ne m'arrête pas, je suis capable de tenir jusqu'à 6 heures du soir.
Non, juste pour rebondir sur quelques messages du chat là, que j'ai vu passer. Il y a eu deux questions sur la condition des 3 années sur le poste actuel. Donc, cette condition s'apprécie à la date de la rentrée 2023, et pas à la date de la candidature, c'est-à-dire du mois de septembre 2022. Concernant la tenue des entretiens, j'ai vu ça au tout début du chat, que ça soit en présentiel ou via Zoom, on a fait tous ensemble plus de, je sais pas, presque 500 entretiens via Zoom, plus 600, donc on sait faire les deux, de toute façon on s'adaptera au contexte sanitaire, il n'y a aucun souci. Concernant la transmission des avis hiérarchiques, il y a une page dédiée sur la dernière page du site du dossier, mais sur la version définitive. C'est-à-dire que si vous êtes resté à la version brouillon du dossier, vous ne voyez pas cette page. Et surtout, pour rebondir sur une question, vous ne verrez pas le processus et les modalités de transmission des avis hiérarchiques. Ça sera peut-être plus facile à lire qu'à expliquer comme ça à l'oral, parce qu'il y a différentes adresses mail et différentes étapes à respecter pour l'envoi du dossier des avis hiérarchiques. Juste, effectivement, on a une question d'une candidate qui posait donc la question de savoir si elle pouvait postuler en fait sur des postes qui ne sont pas publiés, voilà, qui n'existent pas pour l'instant. Et bien concrètement, la possibilité de faire simplement nous ce qu'on appelle des vœux géographiques. Et si, admettons, je ne sais pas, elle fait des vœux en Asie, il y a un poste qui se libère à Tokyo, à Shanghai dans les prochaines semaines, les prochains mois, eh bien, on reviendra sur les dossiers correspondant à ces zones, ces vœux géographiques, et on reprendra la phase de sélection. Et voilà.
Juste une précision, ouais. Enfin, un complément sur cette notion-là. On a une question, quand est-ce que la liste définitive va être arrêtée? La liste qui est sur le site, c'est la liste des postes connus à ce jour, mais des postes peuvent tout à fait se libérer tout au long de la campagne, et cette année, ça a été très tardif. D'où l'intérêt de formuler ces vœux géographiques, parce que la liste n'est jamais arrêtée, en fait, des postes vacants, et si vous n'indiquez pas de postes géographiques, vous pouvez passer à côté de propositions de postes. Hein.
Une question pour savoir où on peut consulter les profils des postes. Ils sont tout simplement sur le site de l'agence.
Alors, il y a une particularité, enfin, certains l'ont peut-être vu, c'est un fichier Excel. Ouais. Et pour voir le détail du profil, il faut double-cliquer sur la cellule Excel qui déroule à ce moment-là tout le profil. est indiquée notamment la catégorie de l'établissement. Nous regardons le chat, il y a énormément de questions. Oui, il faut absolument 3 ans sur le dernier poste. Hein. C'est indiqué dans la note de service du ministère qui est parue le 31 août relative au détachement. C'est vraiment une condition sine qua non, 3 ans d'ancienneté sur le dernier poste, quelle que soit l'ancienneté de service général.
L'ancienneté, on regarde plus.
Non, c'est... Oui.
Voilà, écoutez, de toute façon, on ne va pas répondre à toutes les questions qu'il y a. Enfin, on ne pourra pas. N'hésitez pas, vous allez voir à la fin du diaporama l'adresse de nos collègues qui s'occupent du recrutement apparaît et vous pourrez reprendre contact avec eux pour savoir si vous êtes, si vous avez des questions individuelles à poser pour qu'on vous apporte toutes les réponses nécessaires. En revanche, je voudrais quand même, pas terminer parce qu'on a encore quelques minutes, mais je voudrais quand même donner des éléments qui sont au cœur de la réussite d'une mission de personnel de direction. Un des éléments fondamentaux, c'est votre capacité à vous adapter au poste qui va être le vôtre dans un pays étranger. Et ça passe par une première qualité qui est l'humilité. C'est-à-dire que ce qu'on va vous demander dans un premier temps, ce n'est pas de mettre en avant toute votre... Bien sûr que votre expérience et vos compétences sont au cœur, nous, de ce qu'on va rechercher. C'est-à-dire les compétences qui sont en adéquation avec le profil du poste, avec la connaissance que nous avons du poste, et de chercher le bon compromis entre vos compétences et le poste que nous voulons pourvoir. En revanche, l'humilité et le fait d'arriver dans un établissement que l'on ne connaît pas, que l'on découvre, et la nécessité de découvrir, est au cœur de la réussite de votre mission, que vous soyez en première ou en deuxième mission. Et le risque en deuxième mission, il est encore plus important qu'en première mission. Ce n'est pas parce qu'on a fait une première mission à l'agence que la deuxième est réussie, surtout si on pense qu'on n'est qu'avec des certitudes. Tout est à remettre en question à chaque fois que l'on prend un poste de direction. Et donc, cette capacité d'ouverture, d'écoute, de s'appuyer sur les collègues, de ne pas travailler tout seul dans son bureau et dans sa tour d'ivoire, s'appuyer sur son équipe de direction... Mais tout ce que je dis là, c'est ce que vous vivez au quotidien, hein. Je le dis, mais à l'étranger, c'est encore plus... On devient plus vite, l'isolement existe encore plus vite. Donc n'hésitez pas à travailler avec les collègues. Bien sûr, vous êtes décideur à un moment donné quand vous êtes chef et vous prenez des décisions. Mais ces postures-là sont importantes. Et enfin, un dernier point qu'on n'a pas expliqué, mais qui est important, c'est la relation avec le poste diplomatique. La relation avec le poste diplomatique va aussi être au cœur de la réussite ou de l'échec de votre mission. Parce que sur place, c'est l'ambassadeur qui est votre supérieur hiérarchique. Ce n'est pas le directeur de l'agence, c'est bien l'ambassadeur qui est votre directeur hiérarchique lorsque vous êtes en mission à l'étranger. Et donc, vous allez apprendre à travailler avec le poste diplomatique, notamment avec le conseiller de coopération et d'action culturelle que l'ambassadeur délègue auprès de vous pour travailler. Il sera présent dans des instances, il va être présent dans les instances de votre établissement, mais c'est avec lui que vous devrez travailler pour lui rendre compte de difficultés, de problématiques liées avec le pays, de problématiques même avec l'AEFE, et systématiquement, vous aurez à mettre dans l'information et dans la relation l'AEFE, qui est votre... Je veux dire, c'est votre recruteur, c'est-à-dire c'est votre employeur, l'AEFE et le poste diplomatique. Et il faut que ça soit presque en même temps, pour que les informations arrivent en même temps. Alors, tout ça, ça vous sera bien sûr expliqué. Mais cette notion de poste diplomatique à l'étranger, elle est aussi dans le... C'est assez nouveau, c'est-à-dire que vous n'aurez pas d'inspecteur d'académie, vous n'aurez pas de rectorat, vous n'aurez pas d'IADAZEN à disponibilité. Vous avez un poste diplomatique et vous avez un conseiller de coopération de nation culturelle qui joue un peu le rôle de toutes ces personnes-là, même si elle n'est pas en responsabilité, elle n'a pas ces titres-là. Et ensuite, vous avez l'AEFE, avec, quand on parle de ressources humaines ou de carrière ou de difficulté, c'est nous. Quand on parle de pédagogie, on a une direction de l'enseignement et de l'orientation et de la formation. Et quand on a des sujets globaux, on a ce qu'on appelle les secteurs géographiques qui vous accompagnent et qui sont des portes d'entrée pour toutes les questions que vous avez. Mais cette connaissance du réseau là, que je viens d'exprimer assez rapidement autour du poste diplomatique et des réseaux, ça aussi, il faut que quand vous préparez votre entretien, quand vous préparez pour venir à l'agence si on vous sélectionne, que vous le maîtrisiez et que si on vous interroge là-dessus, vous soyez bien au courant de comment ça se passe. Alors, vous ne pouvez pas tout savoir si vous n'êtes jamais parti, on ne va pas vous le reprocher. Mais déjà montrer que vous avez regardé, que vous avez, que vous allez apprendre et que vous allez, bien sûr, découvrir tout cela, et bien sûr, ça fait partie de ce qu'on attend d'un chef d'établissement à l'étranger. Et je crois que c'est au cœur vraiment de votre réflexion personnelle. L'objectif de ce webinaire, pour nous, c'est de vous donner des informations en direct sur la problématique de l'impôt à l'étranger et d'éclairer votre choix de savoir si vous allez candidater ou pas. D'abord, est-ce que vous êtes en capacité de candidater par rapport à ce qu'on vous a dit sur nos attendus et nos incontournables? Et ensuite, est-ce que vous avez la volonté de candidater pour tenter une expérience à l'étranger? Si les deux sont réunis, si familialement vous êtes prêts, si vous avez préparé tout cela, nous vous accueillerons à bras ouverts. Et si vous arrivez aux entretiens, c'est avec grand plaisir que vous ferez partie de ce beau réseau des lycées français à l'étranger. Voilà, je crois ce que je voulais dire. Je ne sais pas si mes collègues ont encore des éléments à compléter. Mais vous allez voir le webinaire. Un petit mot pour dans ce milieu des personnes en direction, je le dis parce que c'est une réalité. Nous avons beaucoup moins de candidatures féminines que de candidatures masculines pour des raisons que l'on connaît, hein, qui sont liées au parcours professionnel de vous, mesdames. Mais là aussi, nous avons un regard comme au ministère, attentif sur les candidatures pour que on va pas aller l'égalité, la parité font partie des critères sur lesquels l'agence est engagée dans le recrutement des personnels de direction. Ce qui fait la différence après, pour être très clair, c'est la compétence, c'est la qualité de l'entretien et c'est l'adéquation au poste que l'on cherche. Voilà. Si vous êtes d'accord, je vais m'arrêter sur ces mots. Je vous remercie encore, mesdames, messieurs, d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'avec mes collègues ici présents, que je remercie, nous avons pu vous éclairer sur ce qu'est un poste à l'étranger. Et à très bientôt. Très bonne rentrée à vous. Merci.
Merci.
Au revoir.